Je voudrais vous montrer, c'est que c'est un métier qui est aussi multiforme, avec beaucoup de types d'activités, mais il y a toujours une démarche qui sous-tend le travail d'un scientifique. Donc c'est ce que je vais vous illustrer par des exemples. Et puis aussi, je vais vous montrer qu'en fait, le monde qui nous entoure, on ne le connaît que peu. Et donc la recherche scientifique, c'est tout simplement apprendre à connaître et à comprendre l'univers qui nous entoure. Donc cette conférence, je l'ai créée avec des petits bouts à droite à gauche. Et donc, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous n'aimez pas. Et puis après, je répondrai bien entendu à vos questions. Je ne vous parlerai pas énormément de ce que je fais pendant la conférence, mais après, vous pourrez me poser des questions sur ce que je fais particulièrement. Donc, la recherche scientifique, la motivation, vous l'avez dit, c'est tout simplement comprendre le monde qui nous entoure et découvrir les lois de l'univers. Alors, ça ne veut pas dire simplement l'univers. Moi, je suis géologue, je m'intéresse à la Terre, plutôt à ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre, qui peut de temps en temps jaillir à l'extérieur par le biais d'éruptions volcaniques ou d'autres phénomènes. Mais l'univers, c'est évidemment aussi l'univers des êtres humains, c'est l'univers aussi qui est dans les cieux et bien au-delà de notre système solaire. Donc l'univers, c'est tout simplement tout ce qui nous entoure et tout ce qui conditionne notre existence de tous les jours. Donc découvrir ces lois, c'est évidemment pas simplement se réduire à quelques principes fondamentaux, c'est de voir aussi comment le système fonctionne dans le détail. Donc la démarche scientifique, c'est explorer le monde qui nous entoure. C'est la Terre, l'univers, ça va être aussi les mathématiques. Le monde mathématique, c'est le monde de la logique. Donc c'est un monde aussi qui est régi avec certaines règles qu'on essaie de découvrir. Les êtres humains, etc. C'est mesurer les choses. C'est-à-dire que lorsque vous allez essayer de comprendre un système, il faut être capable de le quantifier. Parce que sans quantification, rapidement, c'est très difficile de comparer et puis surtout de correspondre avec d'autres personnes et de partager le savoir et de le faire progresser. Donc je vous montrerai pourquoi il faut mesurer. Et les mesures, ça peut prendre mille et une formes. Il ne s'agit pas toujours de faire une mesure avec un chiffre bête et méchant, mais il faut être capable de quantifier de manière à pouvoir échanger de l'information avec des règles qui sont reconnues par tous. Il faut aussi identifier des problèmes, parce que quand vous allez travailler sur l'univers, c'est vaste. Il y a 36 000 objets. Ce n'est pas simplement la description passive d'un objet. Vous allez choisir les objets en fonction de la question qui vous intéresse et du problème que vous souhaitez résoudre. Donc il y a tout un travail préalable avant une étude qui est de dire pourquoi est-ce que je vais étudier cet objet, pourquoi est-ce que je vais essayer d'aller chercher cette caractéristique-là, pourquoi je vais faire cette mesure particulière. Ensuite, une fois que vous avez fait des mesures et des observations, quelles qu'elles soient, ça peut être des observations qui datent depuis longtemps, sur le comportement humain par exemple, eh bien il faut proposer des hypothèses, proposer un problème. Parce qu'il faut poser le problème de manière à ce qu'il y ait une question à laquelle on doit résoudre. Partir dans tous les sens, ça mène à des tas de choses, mais ça ne permet pas de construire une démarche scientifique. Donc il faut toujours poser un problème, une question. Pourquoi, par exemple, pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi est-ce que j'observe ceci dans ces conditions-là? Pourquoi est-ce que ça se passe autrement dans d'autres conditions? Donc une fois qu'on a posé une question, évidemment, il faut pouvoir y répondre. Mais sans avoir posé de question, eh bien, on ne peut pas y répondre, forcément. Donc les hypothèses que vous pouvez proposer, ça va être des pistes qui vont vous permettre de répondre à des questions. Donc il faut les tester. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire j'ai une réponse et puis merci, au revoir. Parfois, la réponse n'est pas unique et il faut démontrer que c'est une bonne réponse en allant chercher des informations complémentaires. Donc il faut suivre le fil de manière à être certain que la réponse qu'on propose, évidemment, elle dépasse aussi le cadre que l'on a posé initialement. Si vous dites, par exemple, pourquoi le ciel est-il bleu, vous avez répondu, oui, le ciel est bleu parce que c'est tout simplement l'absorption de l'atmosphère qui filtre un certain nombre des rayons lumineux que nous envoie notre soleil. Une fois que vous avez répondu à ça, ça ne suffit pas. Vous allez dire, est-ce que le ciel est bleu tout le temps? Lorsqu'il n'est pas bleu, qu'est-ce que ça signifie? Et quelles sont les conséquences du fait que le ciel est bleu? Donc parfois, ça demande d'avoir des mesures complémentaires, d'avoir une démarche qui va suivre la démarche initiale et ensuite tirer toutes les conséquences. Une fois qu'on a appris quelque chose, eh bien, on va s'en servir ailleurs. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que parfois, la recherche progresse de manière imprévisible et imprévu, parce que les outils qu'on a développés d'un côté, eh ben, ils vont servir de l'autre côté. Je vais vous montrer des exemples de ça. La méthode scientifique, donc, c'est simplement une série de règles qui n'est pas forcément toujours obéie, mais c'est le principe qui est important, j'espère que vous allez comprendre. Je vais vous illustrer ça par des exemples. Je préfère vous donner, disons, le cadre de ce que je vais vous raconter, plutôt que de vous le faire découvrir au fur et à mesure, ce sera plus simple comme ça. Donc il faut adapter la stratégie de mesure au problème. Si vous souhaitez comprendre un phénomène électrique, il faut faire des mesures électriques. Ça a l'air évident, mais parfois, quelles mesures électriques faire? Parfois, les appareils n'existent pas. Donc aussi, dans la démarche scientifique, il y a parfois créé de nouveaux appareils. Il ne faut pas se contenter de constater des correspondances entre certains événements ou des coïncidences. Une coïncidence n'est pas forcément une preuve que les deux phénomènes sont liés, parce qu'il y a toujours la possibilité que deux phénomènes se produisent en même temps, alors qu'ils ne sont pas réellement liés d'un lien de cause à effet. Donc il faut se méfier des coïncidences, et pour ça, il faut fouiller un peu plus. Il ne faut pas se borner à avoir des observations superficielles. Pour ça, il faut établir le lien de cause à effet. Ça veut dire qu'il faut dire, bien, je pense que ce qui est en train de fonctionner ici, c'est ce mécanisme-là. Et une fois qu'on a posé cette question-là, évidemment, on va rentrer dans le mécanisme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire compléter et expliquer ce que l'on a observé, ce qu'on a mesuré par une analyse théorique. Alors la théorie, ça ne veut pas dire simplement une théorie mathématique avec des équations. Ça peut être une théorie comme par exemple la théorie de l'évolution pour expliquer la manière dont les espèces ont évolué au cours des âges. Mais c'est une théorie, un cadre qui fixe dans quel type de direction on va aller. Et puis quelque chose qui est aussi essentiel, je vous en parlerai peu, mais il faut absolument rejeter les théories erronées. Une fois qu'une théorie a été ce qu'on appelle falsifiée, eh bien on s'en débarrasse. Ça permet de dégager le terrain, on n'en parle plus. Donc l'un des travaux scientifiques, ça peut peut-être vous paraître bizarre, c'est aussi de travailler à démolir des théories. Le travail de démolition n'est pas forcément inutile, il dégage le terrain. Oh, ça c'est prouvé comme étant faux, ben, si c'est faux, on n'en parle plus, et on ne va pas continuer à traîner des mauvaises hypothèses ou des mauvais cadres de travail. Donc il y a une bonne partie qui est, cette hypothèse-là, elle n'est pas bonne, mais je vais démontrer qu'elle est fausse. Mais ce n'est pas pareil de dire que je pense qu'elle n'est pas bonne que de démontrer qu'elle est fausse. Voilà. Donc je vais commencer par quelque chose d'un tout petit peu rébarbatif, parce qu'après ça sera un peu mieux. Mais je tenais à vous montrer ça parce que c'est une démarche qui est très ancienne. Donc quand évidemment les anciens regardaient le monde qui nous entourait, ils regardaient les astres, les planètes. Et très tôt, évidemment, ils ont repéré qu'il y avait des planètes plus grosses que d'autres. Et ils ont pu établir une classification qui est maintenant beaucoup plus complète. Mais déjà, dès l'époque, ils avaient repéré qu'il y avait des planètes comme Vénus. Il y avait la Lune autour de la Terre et d'autres planètes qu'ils pouvaient deviner au firmament. Donc, lorsqu'on avait constaté ça, eh bien, l'être humain a pu se dire, je vois des planètes. Non, l'être humain a cherché à savoir à quelle distance ces planètes étaient. Et puis, quelles étaient leurs tailles. Vous vous rendez bien compte qu'une planète peut être, si elle est très grosse, et qu'elle est très loin, on la verra avec une certaine taille, ça peut être aussi une toute petite planète qui est proche de nous. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce que c'était que ces planètes, comment est-ce qu'on pouvait déterminer leurs caractéristiques. Donc en particulier, quelles étaient la taille et les distances des planètes. Ce que je vais vous montrer, c'est que ça se détermine de manière extrêmement simple. Et comment ça a été possible? Eh bien tout simplement parce que les Grecs avaient développé la géométrie, et la géométrie, ça leur permettait de décrire par exemple le champ du voisin, de déterminer comment on peut déterminer la hauteur d'un bâtiment. Eh bien ces mesures qui avaient été faites pour absolument des choses de tous les jours, eh bien ils s'en sont servis pour déterminer la taille des planètes qui étaient à des centaines de milliers de kilomètres. Donc ici c'est ça, appliquer une méthode qui a été validée pour des objets communs, eh bien on peut l'appliquer à d'autres objets. Le principe c'est que la physique, les principes qui régissent le monde qui vous entoure immédiatement, ça doit régir tout le monde, y compris celui qui est lointain. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on détermine par exemple la taille de la Terre, la taille de la Lune et la distance entre la Terre et la Lune. Vous allez voir qu'en plus, ça, c'est quelque chose qui se fait de manière très simple et que chaque mesure entraîne la prochaine. Voilà, donc comment est-ce qu'on a déterminé le rayon de la Terre? Peut-être que vous avez déjà vu ça, c'est un beau problème géométrique très simple. Et ça a été fait, voyez, il y a très longtemps avant Jésus-Christ. Ce qui est remarquable, c'est que cette méthode, elle est bête et méchante, que ça avait été développé par M. Ératosthène, et que le résultat qu'il a obtenu, c'était à quelques pourcents de la vérité. Avec des mesures actuelles, on fait bien mieux, évidemment, mais à quelques pourcents près. Donc, vous voyez que finalement, depuis 2000 ans, on a progressé de quelques pourcents. Donc, qu'est-ce que Ératosthène avait dit? Il a dit, moi, je sais que je suis éclairé par le Soleil, manifestement, il est très loin, je fais une hypothèse, après, on pourra la valider. Donc il m'envoie des rayons qui sont plus ou moins parallèles. Si j'observe par exemple la sienne, ce qui se passe à midi, je vois que le soleil, il va au fond d'un puits. Donc je suis aligné, la verticale du puits, eh bien c'est, puisque c'est je suis sur une sphère, la verticale c'est cette direction qui relie le centre de la sphère au point où je suis, dans mon rayon, et si je vois que le soleil tape dedans, il tape selon la verticale. Donc je repère, si à midi, pas de problème, le soleil est au firmament. Maintenant, je vais aller voir ce qui se passe à Alexandrie à la même heure. Alexandrie, c'est à une certaine distance. Et je vais, par exemple, observer un grand bâtiment. Et je vois qu'à la même heure, bien le soleil, en fait, il donne une ombre. Le bâtiment, en fait, n'est pas dans l'axe du soleil. Maintenant, il y a un angle. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, voilà la géométrie. Vous voyez? Ici, le soleil, il tapait directement dans le puits à Sienne. Et puis là, quand il est arrivé à Alexandrie, la verticale était ici, parce que je suis sur une sphère, donc j'ai bougé latéralement. La verticale est avec un angle qui est différent. Et là, je vois une ombre. Mais il suffisait de mesurer cet angle-là, qui est un angle très facile à mesurer. Par les raisons de géométrie, cet angle-là, c'est aussi celui-là. Alors, je suis désolé, c'est un peu rébarbatif, vous allez voir que ça devient très simple après. Et donc, voilà, il l'a fait. Alors, il fallait faire quand même ça entre Sienne et Alexandrie pour vous montrer où c'est. Vous êtes en Égypte ici. Sienne, c'est par là. Et Alexandrie, c'est là. Donc, il y a 800 km, grosso modo, hein, c'est une certaine distance. Et il fallait donc penser, faire ces mesures, parcourir la distance. Il faisait ça à d'autres chameaux. Donc, vous voyez aussi, il y a toute une des considérations pratiques. Donc voilà, on vous montre qu'il y avait des bâtiments et des puits. Il faut aussi qu'il y ait des bâtiments et des puits, mais une fois qu'on avait ça, c'était facile. Donc voilà ce qu'il a fait. Je vous fais grâce du calcul. En mesurant cet angle-là, et en connaissant la distance entre Alexandrie et Sienne, je peux déterminer le rayon de la Terre. Donc ça a l'air de rien, mais le résultat qui a été obtenu, c'est 6500 km. Et maintenant, on sait que le rayon de la Terre moyen, disons, c'est 6370, c'est-à-dire une erreur qui est très faible. Donc vous voyez qu'il y a qu'une mesure qui est finalement extrêmement simple, des types de mesures qui avaient été développées par des géomètres qui cherchaient à mesurer la taille des champs. Maintenant, comment est-ce qu'on mesure la Lune, par exemple? Ben, la Lune, c'est aussi simple, et c'est le même raisonnement. Si je suis le Soleil, maintenant, il y a des moments où la Lune et le Soleil sont de part et d'autre de la Terre. Le Soleil est d'un côté, la Lune de l'autre. Donc, au moment où la Terre se met entre la Lune et le Soleil, eh bien, la Lune va être obscurcie, je ne vais plus la voir. Donc, en regardant tout simplement combien de Lune je suis capable de voir quand elle se déplace dans la zone d'ombre, je vais disparaître la Lune, je vais regarder ça, ben, je vais tout simplement pouvoir déterminer la taille de la Lune, parce que vous voyez que la distance parcourue pendant que la Lune est obscurcie, ben, c'est tout simplement le diamètre de la Terre. Donc vous voyez, comme ça, je vais pouvoir tout simplement déterminer le rapport qu'il y a entre la taille de la Lune et la taille de la Terre. On ne peut pas faire plus bête comme mesure. Voilà, bon, mais en fait, le diamètre de la Lune, c'est 3,5 fois plus petit que le diamètre de la Terre. Donc une mesure très très simple, encore une fois, faite avec du bon sens. Donc une fois qu'on a ça, moi je connais le rayon de la Terre, je connais le rayon de la Lune, c'est déjà pas mal. Il me manquait à déterminer la distance qui sépare la Terre de la Lune. Ben ça c'est bête aussi. Il suffit d'avoir un instrument précis parce que la Lune je la vois, je vois l'objet, mais maintenant je connais sa vraie taille. Donc si je rapporte maintenant l'angle que je peux déterminer lorsque j'essaye d'observer les deux extrémités de la Lune, du disque parfait que je vois de temps en temps, si je mesure cet angle-là, bon ça demande des instruments un peu précis. Mais puisque je connais la taille, je vais connaître la distance aussi, le rayon vecteur. Donc vous voyez qu'ici, chacune de ces mesures, en fait, elle a permis la suivante. Donc comme ça, on détermine que la distance Terre-Lune, c'est 60 fois le rayon de la Terre. Et donc tout ça, c'est des mesures qui avaient été rendues possibles, tout simplement parce que eh bien, les gens cherchaient à mesurer la taille de leur champ lorsqu'ils allaient faire des échanges commerciaux. Donc ici, on avait une méthode. Cette méthode, il n'y a aucune raison qu'elle ne s'applique qu'à la mesure d'un champ. Elle doit aussi pouvoir s'appliquer à la mesure des dimensions de l'univers. Donc c'est ça qui est essentiel, les outils scientifiques, ils sont utilisés pour certains objectifs, mais après, on va s'en servir à d'autres fins. Donc il y a aussi toujours la question de la méthode. Donc voilà, c'était la partie rébarbative, c'est fini, il n'y aura plus de géométrie, plus de mathématiques, plus simple. Donc on s'en débarrasse tout de suite pour commencer. Il y a toujours un problème de méthode. Ici, la méthode, elle était très simple. Elle demandait tout simplement un peu d'astuce, d'aller aussi à d'autres chameaux entre Sienne et Alexandrie. Bon, c'est pas très compliqué. Mais bon, maintenant, évidemment, plus les questions deviennent précises et plus la méthode devient compliquée. Je vais vous illustrer tout simplement qu'avec les avancées des méthodes, on arrive à progresser. Et je vais vous donner comme exemple comment on détermine l'âge de la Terre. Donc l'âge de la Terre et l'âge du système solaire, c'est important. J'espère que vous savez tous que la Terre a 4,55 milliards d'années, ce qui vous permet de ramener la vie humaine à sa juste valeur, c'est-à-dire pas grand-chose, voilà, à l'échelle de l'univers. Donc l'âge de la Terre, donc 4,55 milliards. Je vous montre ici les âges en années, et puis les années des différentes estimations qui ont été proposées. Donc il y a d'une chose, vous voyez que ici le graphe commence à moins 2000 ans, 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc vous voyez d'abord que apparemment ça préoccupe les gens de connaître l'âge de la Terre, puisque depuis qu'on a des enregistrements, les gens s'en sont préoccupés. Et voilà, alors les premières estimations, la première qu'on connaît, c'est celle de Zarathoustra, qui était un savant probablement iranien. Donc les dates à laquelle il travaillait, c'est contesté, mais disons que c'était environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Mais Zarathoustra, les premiers enregistrements, quelqu'un qui cherchait à déterminer l'âge de la Terre. Pourquoi ? Vous vivez dans un système, il n'y a aucune raison que supposer qu'il est éternel, les êtres humains, vous avez pu constater, non pas une vie éternelle, ça va être pareil pour la Terre. Donc déjà, il y a un raisonnement très simple, c'est de dire, si la Terre est là, elle n'est peut-être pas là depuis tout le temps, comment est-ce que je vais déterminer son âge? C'est une question fondamentale. Donc les premiers raisonnements, bien, c'était de l'ordre de 10 000 ans. C'était basé, en fait, sur tout simplement les variations que les gens voyaient des niveaux de mer ou des, tout simplement aussi des accumulations qu'ils pouvaient voir dans certains endroits, des déplacements. Donc c'était basé sur des chroniques historiques avec, grosso modo, 10 000 ans, c'était les âges qui correspondaient probablement aux grosses inondations et qui étaient aussi à l'origine des contes sur le déluge, etc. Donc après, d'autres types de raisonnements qui sont analogues, hein, qui est tout simplement les depuis quand est-ce qu'on sait, depuis combien de temps on a une mémoire. Donc ici, l'âge de la Terre s'était associé à l'âge de la mémoire humaine, finalement. Donc vous voyez que ça oscille un petit peu. Depuis qu'on a des textes des Hébreux qui sont les premiers textes écrits en détail et qui aussi sont repris dans l'Ancien Testament catholique, eh bien c'est des âges qui sont semblables. La Bible raconte des histoires de tribus qui vivent, et bien donc tout simplement en comptant les âges et des différentes personnes, il y a le père, le grand-père, etc., on peut essayer de dater, donc ça permet de dater la durée de la chronique qui est relatée dans le texte sacré, et vous voyez que ça donne quelques milliers d'années. Vous allez voir que cette méthode-là, on va la retrouver tout le temps. Vous voyez ici, c'est une méthode qui est... Et cette méthode-là, évidemment, elle représente étant uniquement le monde tel qu'il est perçu par les humains. D'autres personnes avaient d'autres arguments. Platon était un philosophe grec, mais aussi un géographe, et Platon s'intéressait beaucoup au monde qui nous entourait. Et Platon, lui, voyait les niveaux des mers qui pouvaient varier. Donc Platon, il a raisonné en disant, ben, si le niveau des mers varie, il a dû, je ne peux pas non plus avoir une mer qui déborde tout le temps parce que je vois des continents. Donc en mesurant ces variations-là, en mesurant aussi le taux d'accumulation de sédiments que je vois dans un fleuve, je vais pouvoir déterminer à partir de quand j'accumule des quantités significatives de sédiments que je peux voir maintenant à la surface. Donc Platon, il arrive déjà à des âges qui sont pas loin de la vérité. Hein. Il arrivait à des âges qui sont proches de 1 milliard d'années. Alors, vous voyez qu'ici, pendant un certain temps, on oscille. Et toutes ces personnes ont des méthodes différentes. Alors ces méthodes différentes, l'intérêt c'est que quand vous avez deux estimations qui ne sont pas identiques, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que vous devez pouvoir être l'âge de la Terre, c'est l'âge de la Terre, et vous pouvez l'estimer par une méthode ou une autre, mais il n'y a qu'un seul âge de la Terre. Donc ici on voyait tout simplement que eh bien, l'âge des chroniques humaines était tout simplement beaucoup plus petit que l'âge des chroniques de la Terre. Donc déjà là, on pouvait suspecter, et ça c'est important dans l'histoire de l'évolution humaine, que eh bien, la planète qui nous entoure est beaucoup plus vieille que les êtres humains qui l'occupent. Donc on va regarder ce qui se passe plus près de chez nous. Plus près de chez nous, ça oscille beaucoup plus, mais ça finit par converger. Donc voilà, maintenant, on se rapproche des temps plus modernes. Donc ici, on retrouve toujours les chroniques sacrées qui datent finalement l'histoire humaine telle que les plus anciens enregistrements permettent de l'obtenir, donc par les textes bibliques. Et puis on arrive à la période scientifique. Donc grosso modo, la période scientifique, on peut la dater pour simplifier de Sir Isaac Newton et de ses successeurs. C'est la première fois qu'on commence à dire ben, le monde qui nous entoure est régi par des lois que je vais essayer d'établir. Donc Newton, il avait raisonné sur le refroidissement de la Terre. Alors par des méthodes analogues à celles qu'a fait Buffon. Donc Buffon, qu'est-ce qu'il avait fait? C'est un naturaliste qui a travaillé sur beaucoup de choses, qui était un peu mathématicien aussi. Buffon s'intéressait évidemment à l'âge de la Terre. Tout scientifique à cette époque-là devait comme se préoccuper de l'univers. Et la première question, c'est ben, quel âge a l'univers? Et quel âge a la Terre? Buffon, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris des canons. Il a pris des obus, et puis il les a chauffés. Il a pris des petites balles de mousquet, des petites balles de fusil, le mousquet c'était le fusil de l'époque, et puis des canons avec des obus de plus en plus grands. Il a regardé comment ces obus refroidissaient au fur et à mesure qu'ils devenaient plus grands. Évidemment, plus l'obus est grand, plus il met du temps à refroidir. Il a dit, bon, bah, la Terre, c'est une sorte de gros obus. Hein, et donc, finalement, j'extrapole. Donc avec ça, Buffon, il avait obtenu un âge qui était de l'ordre de 100 000 ans, à peu près. Bon, c'est tout à fait insuffisant, hein, puisque l'âge de la Terre, c'est 4,55 milliards, c'est là. Mais c'est la première fois qu'on a une méthode systématique en disant bah, la Terre, finalement, ça n'est rien d'autre qu'une sorte de gros obus, et qu'en étudiant des petits obus, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas comprendre ce que devient un gros obus. Donc c'est important de voir qu'ici, une fois de plus, les outils qu'on peut développer pour étudier les objets qui nous entourent, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable de l'utiliser pour les objets qui sont beaucoup plus gros, même voire beaucoup plus gros que nous. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la physique traditionnelle, la physique quantitative précise, n'était pas toujours la meilleure manière d'arriver vers la vérité. Donc vous voyez que ça, c'était des physiciens. Newton, c'est difficile d'imaginer un plus grand physicien. Ben, Newton, il s'est complètement planté. Il s'est complètement planté parce qu'en fait, à l'époque, il ne connaissait pas bien les mécanismes de refroidissement de la Terre. Donc il a mesuré de manière analogue à Buffon, il a mesuré la Terre comme si c'était une sorte d'obus qui refroidissait. Bon, en fait, on sait maintenant que la Terre ne refroidit pas comme un obus. Bon, mais à l'époque, vous voyez qu'il y avait une hypothèse qui était fausse. Les géologues, eux, Lyell, c'est le premier grand géologue, c'est un géologue anglais, ils ont tout simplement raisonné à partir de l'accumulation des sédiments. Donc, c'est un peu analogue à ce qu'avait fait Platon. Donc, ils ont commencé à dire, voilà, si je vois des sédiments s'accumuler dans un lit de rivière, et que je vois des strates sédimentaires, comme par exemple celle du bassin parisien, eh bien, quel est le temps qu'il me faut pour accumuler des épaisseurs pareilles de roches, sachant que je peux les voir s'accumuler à l'heure actuelle dans le lit d'une rivière. Donc Lyell, lui, il avait obtenu un âge qui était de l'ordre du milliard d'années. Donc, et tout de suite que dès lors qu'on s'intéresse à l'objet tel qu'il est, pas simplement en disant bah, « c'est comme si c'était un obus », Lyell lui dit « la Terre, c'est pas un obus ». Donc je regarde comment la Terre évolue, il a déjà tout de suite une estimation qui est beaucoup plus proche de la réalité. Après, il y a des géophysiciens, donc des gens très sérieux. Moi, je suis un géophysicien, mais vous voyez que les géophysiciens se plantent. D'abord, ils s'oscillent dans tous les sens, parce qu'ils ont utilisé différentes méthodes, mais qui étaient des méthodes qui étaient basées sur une simplification du système terrestre qui était beaucoup trop abusive. Donc Lyell, c'était quelqu'un de certainement moins fort en mathématiques que ces géophysiciens, mais il avait les pieds sur Terre, lui. Le géophysicien disait « la Terre, c'est un obus, la Terre, c'est ceci, la Terre, c'est cela ». Ben, la Terre, c'est rien de tout ça, la Terre, c'est la Terre. Donc, vous voyez ici, il faut chercher la bonne méthode pour déterminer l'âge de l'objet, c'est-à-dire qu'il faut que la méthode soit adaptée à l'objet qu'on veut mesurer. Tout change dès lors qu'on passe à la découverte de la radioactivité. Donc, la découverte de la radioactivité, c'est la fin du 19e siècle, début du 20e. Et à partir de ce moment-là, on a une horloge. Donc, la radioactivité, vous savez qu'il y a des radioactivités qui sont induites, artificielles, des bombes atomiques ancrées. Mais il y a aussi de la radioactivité naturelle. Et la radioactivité naturelle, tout simplement, c'est comme une horloge. Les atomes se désintègrent, et un atome qui se désintègre, c'est comme des grains de sable qui tombent dans un sablier. Chaque atome qu'on perd, c'est un autre atome qu'on gagne. Et si je les compte, eh ben, finalement, je vais pouvoir déterminer l'âge comme ça. Donc ça change. Mais les premières mesures, c'était basé sur des mauvaises radioactivités. Vous voyez que ça met du temps à converger. Mais depuis qu'on a des très bonnes méthodes d'analyse de la radioactivité, depuis exactement 1955, qui est la date à laquelle M. Patterson a déterminé ça pour la première fois de manière à peu près exacte, on est à 4 milliards 50 à peu près. Donc vous voyez, ce que vous devez retenir de cet exemple, c'est que l'âge de la Terre, c'est quand même une des premières questions. On pouvait mesurer la taille de la Terre depuis les anciens. Et vous voyez que, comme c'était un problème géométrique, c'était extrêmement simple. Et donc la méthode qu'avait utilisée Eratosthène, eh bien, ça donne quasiment le bon résultat. Vous voulez poser une question ? Parce que depuis, ça a été repris de mille et une manières différentes et que ça ne bouge plus, vous voyez, ça ne bouge plus. Donc depuis 50 ans, il y a plein de gens qui continuent à mesurer ça et à chaque fois, ils trouvent la même valeur. Donc, et c'est corroboré pas simplement comme étant l'âge de la Terre, ça a été vu aussi par des âges d'échantillons lunaires, etc. Donc tout le monde trouve la même chose. Donc maintenant, si vous voulez, en science, on reviendra là-dessus après si vous voulez, la vérité, c'est une vérité qui est parfois transitoire, c'est-à-dire que parfois tout le monde peut être d'accord et puis on se rend compte qu'on avait fait une erreur collective et qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et pour l'instant, tout le monde est d'accord. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est cet âge-là qui est le bon. Il y a plein d'autres évidences que c'est ça, mais y compris d'ailleurs la compréhension, par exemple, du refroidissement de la Terre. Le refroidissement de la Terre qu'a fait Buffon, on sait maintenant que ce n'est pas un obus. Je peux maintenant faire des modèles qui me disent comment la Terre se refroidit exactement. Je trouve des âges voisins de ceux-là. Donc, il y a de la physique, de la chimie, etc., de la géologie, etc. Donc, vous voyez ici, il est important d'adapter la méthode de mesure à l'objet. Donc vous voyez qu'on a mis tout ce temps-là, c'était plus compliqué, donc c'était pas un problème géométrique, et là donc il a fallu attendre 2000 ans après Eratosthène pour arriver à avoir des valeurs qui soient pas tout à fait débiles. Donc c'est ça le principe, c'est que parfois c'est compliqué, et donc la science n'avance pas toujours rapidement. Donc la science c'est aussi explorer le monde qui nous entoure. Donc, vous pourriez avoir l'illusion qu'à l'heure actuelle on connaît parfaitement la Terre. La Terre on l'a arpentée, on a fait des navigations à droite à gauche, ben, il y a plein d'endroits sur Terre qu'on ne connaît pas encore à l'heure actuelle. Dans certains cas, eh bien, on connaît finalement, si vous prenez simplement la mesure la plus simple, c'est-à-dire la topographie, c'est-à-dire les variations d'altitude, on connaît mieux la topographie de la planète Vénus que la topographie de la Terre. Pourquoi ? Ben, parce qu'une grande partie de la Terre c'est sous le niveau des mers. Et sous le niveau des mers, on ne connaît pas parfaitement le fond des mers. Donc ici, dans la méthode scientifique, il y a aussi de l'exploration, c'est-à-dire regarder, décrire ce qui nous entoure. Vous avez peut-être entendu parler que même le nombre d'espèces vivantes sur notre planète, chaque fois que quelqu'un va voir, par exemple, en Amazonie ou dans des arbres très bizarres, on trouve toujours des espèces qui n'ont pas encore été décrites. Donc il y a aussi, dans la science, une exploration du monde qui nous entoure, parce que cette exploration, elle n'est pas finie, on ne connaît pas tout. Un jour, peut-être qu'on connaîtra tout, mais à l'heure actuelle, chaque fois qu'on cherche quelque chose, eh bien, on en trouve d'autres. Et ça veut dire qu'on n'a pas encore fait tout à fait l'inventaire de tout ce qu'il y a sur notre planète. Donc, je vais vous donner quelques exemples, en prenant encore une fois l'exemple de la géologie à partir de maintenant, puisque c'est ma discipline. Mais évidemment, c'est des principes généraux que vous pouvez voir ailleurs. Les mathématiques, ça n'arrête pas de progresser. Une fois qu'on a découvert un théorème en mathématiques, il y en a d'autres à côté. Il y a toujours même ce qu'on appelle des conjectures en mathématiques, c'est-à-dire des relations qu'on semble percevoir comme étant des vérités, mais elles ne sont pas encore démontrées. Certaines sont très anciennes. Eh bien, il faut les démontrer. Donc, ce n'est pas un édifice qui est achevé. Et plus on avance, et plus on découvre d'autres choses. Donc il y a une exploration systématique qui est importante dans la démarche scientifique. Donc, je vais vous montrer où on trouve les plus vieilles roches du monde. Jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a l'année dernière, les plus vieilles roches du monde, c'était au Groenland qu'on les avait vues. Elles avaient 3,9 milliards. Vous me direz, mais ce n'est pas l'âge maximum de la Terre. Non, parce qu'en fait, eh bien, la Terre, vous le savez peut-être, elle est sans arrêt en train d'être remaniée, remodelée. Sa surface se renouvelle constamment. C'est le balai de la tectonique des plaques dont vous avez entendu parler, j'espère, dans vos cours. Eh bien, la Terre refait sa peau, et donc les petits fragments initiaux, ben, on a peu de chances d'en retrouver, et puis surtout, ils sont parfois dans des endroits pas possibles. Donc jusqu'à il y a l'année dernière, les roches les plus vieilles, elles avaient 3,9 milliards. Je parle des roches. Eh bien, l'été dernier, eh bien, certaines personnes sont allées là. Alors ici, c'est la carte du continent nord-américain, vue de satellite. C'est ce qu'on appelle la baie d'Hudson, ici. Donc, ici, on est très au nord, hein. Là, ça c'est le Groenland. Eh bien, là, précisément là, des géologues qui arpentaient le terrain ont vu des roches très bizarres, et ils les ont datées. Et ces roches-là, je vous montre cette photographie, vous la voyez mal, c'est des roches très bizarres. Voilà, c'est les plus vieilles roches du monde connues à l'heure actuelle. Donc, vous voyez, elles ont été interrompues, il y a eu des injections de magma qui ont fragmenté ces roches-là. Et tous ces événements-là, on a pu les dater, et ça a 4,2 milliards. Donc voilà le plus vieux bout de terre que l'on connaisse. Et celui-là, eh bien, c'est provisoire, parce que si je cherche encore, j'en trouverai bien qui est plus vieux probablement. Parce que jusqu'à ce que je trouve ce bout-là, on pensait que les plus vieilles roches avaient 3,9 milliards. Ben non, il y en a bien à 4,2 milliards, donc il n'y a aucune raison de s'arrêter. Je pense par contre que je vais avoir du mal à trouver quelque chose de plus vieux que 4,5 milliards, qui est l'âge total de la Terre. Mais... Oui ? C'est basé sur les méthodes de désintégration radioactive. Donc voilà les plus vieilles roches du globe. Et ces roches-là n'étaient pas connues, elles n'avaient même pas été cartées, elles n'avaient évidemment pas été datées. Bon, moi je travaille dans ces régions-là, on voit des très jolies choses. Les scientifiques, parfois, vous avez peut-être l'impression que c'est des gens qui ont l'air un peu austères et barbatifs. Il y en a qui s'amusent aussi, et puis il y en a qui simplement aiment leur métier. Pour des raisons, parfois il y en a qui aiment leur métier dans une salle de chimie. Il y en a qui aiment tout simplement parce qu'ils vont dans des endroits fantastiques. Ici, je vous assure, les couchers de soleil dans ces régions-là sont très belles, sont très beaux, pardon. Et donc, il y a aussi parfois l'émerveillement du monde qui nous entoure, qui est une motivation essentielle, et pas toujours dans des îles féeriques avec des belles plages. Ça peut être dans des coins comme ça, où je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de vie. Donc, je vais vous montrer, moi, ce que je fais dans ce genre de région. Donc, les racines continentales, les continents, vous avez entendu parler de la croûte terrestre, vous êtes assis ici à l'heure actuelle dans le bassin parisien, vous êtes sur des roches sédimentaires, donc c'est des roches très superficielles qui ont été déposées il y a quelques dizaines de millions d'années, alors que tout ça c'était sous l'eau, enfin, un peu plus que quelques dizaines de millions d'années. Donc ici vous êtes assis sur des roches sédimentaires, en dessous il y a des roches qu'on appelle du socle cristallin, et puis en dessous de ça, en dessous des roches de la croûte, il y a encore une racine continentale qui vient stabiliser les continents. Les continents sont très anciens, sont très stables, mais la structure profonde, on ne les connaît pas bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de déterminer vraiment jusqu'à où s'enracinent les continents. Pour aller faire ça, il faut aller faire des mesures diverses et variées, des mesures de géophysique. Je ne vais pas vous détailler les mesures, mais pour les connaître, eh bien, il faut aller parfois dans des portions de continents qui sont très intéressantes, parce qu'ici, il y a un bassin sédimentaire qui montre que le continent a été perturbé. On ne fait pas un bassin sédimentaire n'importe comment. Donc moi, je suis allé étudier des choses dans ce coin-là, pas loin des roches les plus vieilles du monde. Je vais vous montrer pourquoi on fait ça. On fait des mesures dans des forages. Et dans ces coins-là, bon, bah, c'est très désolé, il y a à peu près, les conditions climatiques sont correctes pendant à peu près quelques semaines, donc il faut bien viser le moment où on y va, sinon c'est recouvert de glace, de neige, et puis il fait en moyenne moins 40 degrés, hein, à peu près, hein, voilà. Et puis quand le vent se met à souffler sur la peau, ça fait du moins 60 degrés facilement, donc c'est des conditions difficiles, mais c'est là qu'on espère trouver des racines continentales particulièrement développées, donc c'est pour ça qu'on y va. Donc ici on cherche l'endroit qui est le plus approprié, et on y va. Même si c'est dans des coins comme ça, pas possible. Donc voilà, on fait des forages, c'est instrumenté, je ne vous ferai pas le détail, hein, il y a un forage ici. Voilà. Donc ça, c'est des appareils qui vont mesurer les temps de trajet d'ondes sismiques. Et puis moi, je mesure les températures à côté. Donc comme ça, on va déterminer si le continent est plus froid qu'ailleurs. Et s'il est plus froid, c'est qu'il est plus épais. Voilà. C'est le principe général. Vous voyez qu'on va dans des endroits qui sont motivés par la question « Où est-ce que je peux avoir la racine continentale la plus épaisse et la plus symptomatique ?» Donc on n'est pas les seuls. Hein. Il y a des, ça, c'est des foreuses que vous pouvez voir là-dedans, c'est, mais ce n'est pas très habité. Par contre, parfois, on a des petits habitants qui viennent nous voir. Vous ne voyez pas ici, mais un petit renard argenté, là. Et il se trouve que c'est des bêtes extrêmement curieuses. Parce que quand on faisait des mesures, il s'est rapproché, voilà. Il s'est même rapproché tout près de chez nous, là. Donc, il est très gentil. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours désagréable de faire de la recherche. Voilà ce que je veux vous dire. Bon, il voulait qu'on le nourrisse, mais on ne l'a pas nourri parce que, évidemment, il ne faut surtout pas les nourrir parce qu'ils prendraient l'habitude. Et dans les conditions dans lesquelles ils vivent, il vaut mieux qu'ils s'habituent avec des ressources beaucoup plus rares que celles qu'on pourrait leur offrir. Donc voilà, ce sont des endroits qui sont choisis parce que c'est les endroits où on peut faire les mesures qui nous intéressent. Donc ici, il y a une exploration du monde. Ces endroits, évidemment, n'avaient pas été mesurés auparavant. C'est difficile d'y aller. Donc il faut y aller et on découvre comme ça des roches très anciennes. Donc le monde, on ne le connaît qu'imparfaitement. Je vais vous donner d'autres exemples de ceci. Parce qu'une bonne partie de la surface terrestre, d'ailleurs la plus grande partie, est sous le niveau des mers. Donc ce qu'on connaît parfaitement, c'est les continents. On l'a arpenté sans arrêt. Il y a les fonds des mers qu'on connaît très mal, et puis il y a le continent antarctique qui est recouvert d'une épaisseur de glace d'environ 3 km. Il y a le Groenland qui est recouvert aussi dans certains endroits de 3 km de glace. Donc ce sont les parties du globe où on ne connaît même pas la surface continentale. On voit de la glace, on voit de la neige, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Sous le niveau des mers, on a des cartes qui sont très grossières. Donc voilà les fonds marins. Vous savez sans doute qu'on a découvert, on le soupçonnait au 19e siècle, il y a des montagnes sous-marines. Vous avez entendu parler de ça, ce qu'on appelle les dorsales médio-océaniques. Donc ici, c'est une carte où je vous montre le noir, c'est les continents. Le noir, ça ne sert pas à grand-chose ici parce qu'on le connaît bien. On peut le mesurer directement parce que je peux marcher dessus. J'ai des appareils très simples pour pouvoir mesurer l'altitude. Sous les mers, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on savait qu'il y avait des montagnes sous-marines parce qu'au 19e siècle, lorsque on a essayé de faire des liaisons téléphoniques entre, par exemple, Paris et New York, on laissait traîner un câble qu'on déposait au fond de l'océan Atlantique. Et les bateaux qui avançaient et qui laissaient traîner le câble, c'est des bateaux avec des énormes rouleaux qui laissaient filer un câble. Hein, c'est pas compliqué, il y a à peu près 6000 km. Bon, il faut un câble de 6000 km de long, ça se fait. Mais ils se rendaient compte que quand ils arrivaient au milieu de l'Atlantique, ils devaient laisser filer moins de câbles alors que le bateau allait à la même vitesse. Ça veut dire que le fond était plus proche de la surface que dans les régions qui était auparavant. Donc ici, on savait qu'il y avait quelque chose, il y avait un relief au milieu. Bon, depuis, on a déterminé les fonds marins de manière relativement systématique. Ce que je vous montre ici, c'est une carte des fonds marins. Elle n'a pas été faite par ces méthodes de câbles ou par des méthodes de sondage direct. Elle a été faite par des mesures satellites. Ça, tout le monde vous expliquer ici pourquoi. Mais grâce à ces satellites, on peut avoir une vision globale des fonds marins. Mais c'est une vision qui est dégradée, donc ces fonds marins, on ne les connaît pas à très petite échelle. Donc, je vais vous montrer maintenant que dans certains endroits, on est encore en train de faire des cartes des fonds marins pour répondre à certaines questions. Donc vous voyez, même le monde le plus simple, je vais vous montrer que dans certains endroits, il faut revenir et faire des cartes tout simplement de la topographie des fonds. Donc c'est un monde qu'on a l'impression qu'on connaît parfaitement. Ben non, on ne connaît pas bien du tout. Et surtout, on ne connaît pas à l'échelle qu'il faut. Donc je vais vous montrer ce qu'on fait, par exemple, sur les îles des Antilles. Donc vous savez que les îles Antilles sont des îles volcaniques. Ici, vous avez l'île de la Guadeloupe, l'île de la Martinique. Ce sont des îles où il y a des volcans. Vous savez que l'île de la Martinique a connu deux grosses éruptions volcaniques au XXe siècle, une en 1902, une en 1932, qui ont détruit la ville de Saint-Pierre. Donc ce sont des endroits qu'on souhaite surveiller. Il y a d'autres îles là, sur cet archipel. Il y a Montserrat, où il y a un volcan qui est en éruption à l'heure actuelle. Et il y a plein de gens qui habitent dans cet endroit. Donc on souhaite savoir ce qui arrive au volcan dans ce coin-là. Mais quand vous allez dans ces coins-là, le volcan, vous le voyez, mais vous ne voyez que la partie émergée. Or, le volcan, c'est un cône qui est posé sur les fonds marins. Donc pour savoir ce qui lui est arrivé, eh bien il faut regarder aussi au-dessous du niveau de la mer. Or il se trouve que même dans ces régions-là, pourtant qui sont extrêmement habitées maintenant, on connaît très mal les fonds marins. Donc le monde qui nous entoure immédiatement, on sait que le fond, il y en a un, mais il est très mal caractérisé. Donc il y a quelques années, étant donné qu'il s'agissait d'évaluer correctement ce qui était arrivé à ces îles volcaniques, on ne pouvait pas simplement se borner à dire je vais regarder uniquement ce qui sort du niveau des mers parce que c'est une toute petite partie de l'édifice, on est allé regarder ce qui se passait en dessous. Et la première chose à faire, c'est de faire la topographie des fonds marins. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très très basique, mais ça n'était pas fait. Il y a 10 ans, on ne connaissait pas bien les fonds marins autour de ces îles-là. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Donc ici, je vous montre, ça c'est la montagne Pelée, très beau volcan conique, avec ici la ville de Saint-Pierre, celle qui a été dévastée en 1902. Depuis, ça s'est reconstruit. Mais quand on voit les fonds marins, ça c'est la partie émergée, je ne vois pas, vous voyez que bon, ça, ici, par définition, il y a des pentes. Et ce qu'on a vu, ce qui est entouré ici par ces courbes-là, c'est qu'il y a eu des gigantesques glissements de terrain qui ont complètement détruit le volcan. Donc dans ces régions-là, eh bien, on ne s'en doutait pas. Enfin, on s'en doutait un peu, sinon on ne serait pas allé faire ces mesures, mais on ne se doutait pas que ce serait systématique de cette manière-là. Donc on a découvert des gigantesques glissements de terrain qui avaient tout simplement détruit des bonnes parties d'édifices. Alors ces glissements de terrain-là, on ne les avait pas vus auparavant parce que les cartes des fonds marins n'avaient pas été faites avec la précision nécessaire. Donc vous voyez que pour quelque chose d'aussi simple qu'un glissement de terrain qui est visible, la partie émergée, on ne les voyait pas parce que ces glissements avaient surtout affecté les parties sous-marines. Et c'est des gigantesques glissements de terrain, et quand ça se produit, vous avez entendu parler des tsunamis, et bien ça fait évidemment des dommages considérables dans toute la région. Donc c'était quelque chose qu'on ne soupçonnait pas il y a quelques années. Donc voilà ici la Martinique, hein. On a reconnu 3 gros glissements de terrain, absolument gigantesques, qui mobilisent des dizaines de kilomètres cubes de roches. Donc je vous montre ici cette image qui est la topographie de la Martinique, mais cette fois-ci, vous voyez, la partie émergée, c'est la partie facile à voir. Eh bien, en fait, c'est une toute petite partie de tout l'édifice volcanique lui-même. Vous voyez que l'édifice volcanique est beaucoup plus gros et surtout beaucoup plus compliqué. Donc, vous voyez que même dans ces endroits qui sont pourtant, qu'on pense bien connus, eh bien, en fait, non, il y en avait la majeure partie qui nous échappait. Donc, ça a été fait aussi dans toutes les autres îles des Antilles, donc Martinique, Guadeloupe, Dominique. Et en fait, ces phénomènes-là, ils sont systématiques. Donc, on sait que ces îles volcaniques, en fait, sont extrêmement instables, qu'elles peuvent engendrer ces glissements de terrain énorme et que c'est évidemment des dangers qu'il faut analyser beaucoup plus profondément. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne soupçonnait pas il y a 10 ans. Donc je vais vous illustrer maintenant ce que c'est que la démarche d'un scientifique. Je vais prendre le cas d'Alfred Wegener. Bon, vous savez sans doute qu'Alfred Wegener, c'est pour ça que j'ai pris ce cas-là, parce que c'est un cas particulièrement intéressant, parce qu'Alfred Wegener était un météorologue, ce n'était pas un géologue. Donc je vais vous montrer quelle était sa démarche. Bon, c'est quand même tout à fait respectable, il y a une tête. Hein. Donc Wegener, qu'est-ce qu'il avait remarqué? C'est quelque chose, dès lors qu'on a fait des cartes du globe, on s'est rendu compte que les côtes d'Afrique et d'Amérique du Sud s'emboîtaient. Donc Wegener, il a dit, ben voilà, je pense qu'en fait, les continents tels que je les vois à l'heure actuelle, avant, ils faisaient partie d'une même masse énorme qui s'est fragmentée. Donc il avait appelé ça le continent de la Pangée, vous avez peut-être entendu parler de ça, et il a dit, bon ben, puisque les côtes s'emboîtent, c'est qu'avant, c'était bien emboîté, c'était des pièces d'un puzzle qu'on a éclatées, mais avant, c'était bien une seule et même masse qui a été tout simplement fragmentée à un instant donné. Donc Wegener a fait cette hypothèse-là. Voilà la carte de son bouquin de 1915. Donc vous voyez que Wegener, c'est intéressant parce qu'il avait fait ça parce qu'en tant que météorologue, il souhaitait faire des mesures qui permettaient de comprendre le climat de la Terre. Et lui, il avait compris que le climat de la Terre, ce n'était pas simplement mesurer le climat de l'Europe ou le climat de l'Amérique. Il fallait avoir en partie dans les pôles. Et quand il a commencé à regarder des cartes pour savoir où est-ce qu'il allait aller, bien sûr, il s'est rendu compte que ces cartes s'emboîtaient. Alors, ça avait déjà été repéré par d'autres géographes, mais lui en a fait la première synthèse. Donc voilà, il a pensé son bouquin, il a dit, ben voilà, je vois la situation actuelle, mais vous voyez que si je referme, je vois que tous ces continents se rassemblent dans une même masse. Et donc, la conséquence, c'est que eh bien, puisque ces masses ont été éclatées, c'est qu'il doit y avoir des mouvements importants à la surface terrestre. Et à l'époque, c'était révolutionnaire, et c'était surtout quelque chose qui a été refusé par tous les géologues, pour deux raisons. D'abord parce qu'ils n'avaient jamais réfléchi à ça, et d'autre part parce que Wegener était météorologue et pas géologue. Donc ici, c'est le problème en science qu'on retrouve, que je vous en parlerai un petit peu après, c'est qu'il est important de parler le même langage. Quand un météorologue s'adresse à des géologues, qui leur dit le climat ceci, le climat cela, le géologue ne comprend pas ce que le météorologue lui dit. Donc il est important d'avoir un langage commun. Alors Wegener, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais attention, la démarche scientifique, ce n'était pas dire, je vois que les côtes ont l'air de s'emboîter. Ça pourrait être une coïncidence, j'en suis pas certain. Donc je vais aller tester cette hypothèse. Si les côtes s'emboîtent, je dois faire emboîter d'autres choses. Donc le raisonnement qu'il fait, c'est uniquement un raisonnement sur les pièces d'un puzzle. Je peux refermer le puzzle. Mais si je referme le puzzle, je dois pouvoir re-emboîter d'autres choses. Donc il a poussé le raisonnement plus loin, c'est-à-dire qu'il a testé cette hypothèse-là. C'est-à-dire que s'est dit, si j'emboîte mes pièces du puzzle, je dois pouvoir aussi recoller non seulement les frontières de ces petits objets, mais je dois reconnaître aussi pouvoir refermer tout ce qui est à l'intérieur des objets eux-mêmes. Donc il a fait le premier test, c'est-à-dire que les structures géologiques sont continues. Est-ce qu'elles le sont? Il savait qu'il y avait une chaîne de montagnes qui est la chaîne des Calédonides, qu'on voit en particulier en Angleterre et en Norvège. Et il avait la chaîne des Appalaches. Il s'est dit, si je refais les continents, ça devrait s'emboîter. Donc il a regardé ça. Sa reconstitution était basée uniquement sur les pièces du puzzle qu'on recolle. Ça n'avait rien à voir avec les chaînes de montagnes. Quand il a recollé, vous voyez que cette chaîne des Calédonides, ici, elle s'emboîte parfaitement avec la chaîne des Appalaches. Donc il a dit, ça c'est un premier test. Je vois qu'effectivement, si je referme uniquement les continents sur la base de la forme des bouts de continents, les chaînes de montagnes deviennent continues. C'était une seule chaîne de montagnes. Donc ça vient corroborer son hypothèse. Bon, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, si c'est très ancien, il y avait probablement des bêtes. Hein. Donc ici, je vous donne l'exemple des mésosaures qui vivaient sur un seul et même continent, des bêtes depuis disparues. Et puis, si ça appartient au même continent, je devrais retrouver des fossiles de ces bêtes-là dans certains endroits. C'est pareil pour les emboîter. Donc, le mésosaure, qui est un reptile aquatique, on le trouvait dans les deux côtés, dans ces régions vertes ici. Et évidemment, quand on referme les continents, on voit qu'effectivement, ces régions étaient en fait une seule et même contrée dans laquelle pouvaient vivre les mésosaures. Donc, il a cherché dans la paléontologie la trace qu'il y avait des êtres vivants qui partageaient la même région lorsque les continents étaient en un seul bloc. Et il a fait un troisième test. Il a dit, je peux voir aussi des dépôts glaciaires. Donc les dépôts glaciaires, les glaciers, ça laisse des stries, parce qu'un glacier, c'est pas statique. Donc ça laisse des traces sur les continents que les géologues savent repérer. Et je vous montre à l'heure actuelle les traces qu'on peut repérer. Il y en a ici, en fait, au Tibet, il y en a en Australie, il y en a en Afrique du Sud, et il y en a en Amérique du Sud. Et on sait aussi déterminer dans quel sens allaient les glaciers, les flèches ici, puisque c'est des stries qui sont laissées par le mouvement des glaciers, on sait dans quel sens ça allait. Donc Wegener savait ça, il a dit, si je dois refermer mes continents, ça c'était probablement un seul et même glacier, est-ce que ça colle? Donc il a refermé ses continents, et ses dépôts glaciaires, en fait, effectivement, ça colle. Vous voyez que c'est un seul et même continent. Ici, tout ça s'était rassemblé au ce qui était le pôle sud à l'époque, et il y avait une gigantesque cale glaciaire analogue à celle qu'on voit en Antarctique à l'heure actuelle. Donc la démarche de Wegener, c'est celle-ci, c'est de dire, moi j'ai l'impression que les côtes des continents s'emboîtent. Donc, hypothèse, en fait, avant, j'avais un seul et même continent qui se fragmente. Comment je vais tester cette hypothèse? Je ne vais pas la tester en revenant à la forme des bouts continentaux. Ça, c'est de l'observation dont je suis parti. Donc, je vais aller regarder d'autres observations qui sont complètement indépendantes. Donc, je vais chercher à vérifier mon hypothèse avec d'autres mesures totalement indépendantes. Et si on ne fait pas ce travail-là, on travaille en rond. J'ai une hypothèse qui est basée sur une observation. L'hypothèse de travail explique les observations expliquent l'hypothèse, et ça tourne en rond, et on ne sort jamais du cadre. Donc il est important de dépasser le cadre initial pour voir si la théorie est capable d'expliquer beaucoup plus que ce dont elle est partie. Donc voilà le résumé. Qu'est-ce qu'il a fait Wegener? Il a dit, je recolle les continents, je repère que les roches analogues, je les retrouve de part et d'autre maintenant, elles faisaient partie d'unités qui étaient continues. Les continents étaient des espaces où il y avait des animaux. Ces animaux, je retrouve leurs fossiles partout. Il y avait des glaciers. Tout ça, c'est continu. Donc, comme ça, j'ai ici quatre observations complètement indépendantes qui sont explicables par la même hypothèse. Donc, c'est évidemment beaucoup plus puissant. Bon, Wegener, il voulait faire des mesures de déplacement. Il avait commencé à le faire, puisqu'il faisait des moyens. Mais il se trouvait que les déplacements sont beaucoup trop lents, donc ça n'a jamais abouti. Mais c'était révolutionnaire, parce qu'il s'est dit, la dernière chose, c'est que si ces continents se déplacent, il n'y a aucune raison que ce soit arrêté, que ça ne continue pas de se déplacer maintenant. Donc Wegener avait dit, je vais essayer de voir à quelle vitesse, par exemple, l'Amérique s'éloigne de l'Europe. Donc il a commencé à faire des mesures, mais comme vous le savez peut-être, ces déplacements sont de quelques centimètres par an, ce qui était impossible à mesurer pour les techniques qu'il avait à son époque. Maintenant, on est capable d'avoir des mesures. Le système GPS dont vous avez entendu parler, que certains d'entre vous ont peut-être vu dans les voitures de leurs parents, dans les taxis, le système GPS vous permet de repérer votre position sur le globe très précisément. Et bien avec le système GPS, on peut montrer qu'effectivement, les continents se déplacent encore à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est des flèches. Et si vous ne les voyez pas très bien, il y en a des grandes. Je vous montre surtout ce qui se passe dans l'océan Pacifique, c'est intéressant. Vous voyez que le Pacifique, ici, du côté Est et le Pacifique Ouest, s'écartent. Et ça s'écarte parce qu'ici, il y a la dorsale où il y a l'expansion des fonds océaniques qui naît là-bas. Donc vous voyez que ces mesures-là, Wegener y avait pensé, il a essayé de les faire. À l'époque, la mesure n'était pas suffisamment fine. Donc c'est la deuxième chose dont je vous parlais, il faut parfois développer des instruments spécifiques parce que, tout simplement, le phénomène que vous voulez observer, eh bien, il n'est pas facile à mesurer avec les outils que vous avez à un instant donné. Il faudra développer d'autres outils. Wegener a essayé, ça ne marche pas, il a fallu attendre presque un siècle, mais maintenant on sait faire ce que voulait faire Wegener et c'est validé tout simplement par ces mesures de GPS qui sont des mesures maintenant très courantes. Donc la dernière chose que je vais vous parler, c'est que la recherche scientifique, c'est aussi une aventure humaine. Je vais vous montrer un petit catalogue de bons scientifiques et de mauvais scientifiques. Il y a des héros et puis des méchants, comme partout. Donc je vais en faire un petit catalogue. C'est important de savoir ça aussi parce que c'est une aventure humaine, c'est-à-dire que vous allez, si vous êtes scientifique, vous n'allez pas simplement être dans un laboratoire, dans quatre murs, à travailler entre vous et vos murs. Vous allez devoir collaborer avec des gens. Vous allez devoir faire accepter vos hypothèses. Et donc, il y a tout un travail d'échange d'informations, de collaboration et de débat. Et les débats sont parfois sévères. La démarche scientifique, c'est essentiel. Ce que je vous avais dit, c'est en partie un travail de réfutation. C'est-à-dire que s'il y a une théorie qui est apparue, c'est normal que vos collègues essayent de la détruire. Parce que si elle est mauvaise, on la détruit, on n'en parle plus. C'est partie intégrante du travail de scientifique. Donc, les débats scientifiques, ce n'est pas toujours agréable. Enfin, c'est guère mieux qu'un match de tennis ou un match de foot où, vous, par définition, vous cherchez à battre votre opposant. Donc, il y a des conflits. Et parfois, bon, les conflits scientifiques peuvent dépasser et devenir des conflits de personnes. Mais c'est important de voir qu'il y a un débat parce que vos collègues, ils vont pas simplement vous dire bravo, merci, au revoir. Ils vont vous dire non, mais ça va pas du tout. Tu as fait cette hypothèse, c'est débile parce que ça marche pas ici, ça marche pas là. Et donc, c'est évidemment un échange qui est parfois très dynamique. Donc, il y a des personnes. Et ces personnes-là, ça donne à la vie scientifique évidemment, parfois un tour assez animé. Donc il y a des héros et puis des méchants. Alors je vous offre un petit peu. Donc il y a des génies, vous avez entendu parler d'Albert Einstein. Ça, voilà. Moins connu, un très grand génie, c'est Pierre-Simon Laplace, qui est un mathématicien français. C'est le premier qui a fait une théorie du monde mathématique. Hein. Donc il a présenté ça à Napoléon, en 1804 je crois, et il avait expliqué comment les planètes se formaient. Donc c'est essentiel d'avoir quelqu'un qui, à cet âge-là, à cette époque-là, était capable de dire « ben moi j'ai un outil mathématique et avec cet outil mathématique et quelques principes physiques, je peux expliquer pourquoi il est inéluctable que la matière se rassemble dans des planètes discrètes ». Et c'est ce qu'a fait Laplace. C'était révolutionnaire. Sa théorie, en fait, elle est dans le principe exact, elle est fausse dans les détails, mais l'idée principale, elle est bonne. Donc c'est un vrai génie, il a développé aussi des tas d'outils mathématiques. Mais c'est pour vous montrer qu'à cette époque-là, on était suffisamment sûr de soi pour commencer à dire « je vais être capable de faire une théorie du monde », ce qui est évidemment une étape essentielle. Il y a des savants fous, donc des gens qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Je donne un exemple, c'est Alan Turing, qui est un très grand mathématicien britannique, qui est grosso modo l'inventeur de l'ordinateur, en tout cas du principe de l'ordinateur, et un logicien hors pair. Bon, Turing a fini par mettre fin à ses jours parce qu'il avait du mal à concevoir l'existence, puis il avait du mal à collaborer avec ses collègues parce qu'il avait un esprit un peu bizarre. Donc vous avez aussi parfois des savants fous. Voilà. Vous avez des maniaques de la collection qui essayent de toujours de tout ranger. Et ça, c'est important. Donc je vous donne l'exemple de Mendeleïev. Le tableau périodique des éléments chimiques, ça a été fait par Mendeleïev et d'autres. Bon, Dalton, qui était un physicien anglais, avait déjà contribué à ça. C'est important de savoir si vous voulez définir ce qui est normal et ce qui est anormal, mais il faut classifier. Donc pour définir une anomalie, il faut d'abord définir ce qui est normal. Et donc c'est important de classifier. Donc il y a des gens qui font ça. Ça peut paraître bizarre, mais c'est essentiel. Ce n'est pas toujours l'activité la plus reluisante et la plus spectaculaire, mais c'est une activité essentielle. Il y a des rats de laboratoire. Il y a des gens qui mesurent des tas de choses dans un petit laboratoire. Je vous donne un exemple, c'est Thomas Seebeck. Je l'avais trouvé parce qu'il louche, donc il devait regarder ses appareils de trop près. Ben Seebeck, c'est lui qui a inventé l'effet thermocouple, c'est-à-dire que si vous avez deux métaux différents qui sont portés à des températures différentes, des jonctions de deux métaux différents à des températures différentes, il y a un courant électrique qui est engendré, c'est un principe qui est encore utilisé maintenant pour mesurer la température. Donc il y a des gens qui passent leur vie dans un petit laboratoire confiné entre quatre murs et puis qui font des tas de petites manips, voilà, bon, ça existe. À côté de ça, vous avez Wegener qui va au pôle, qui va voir l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc. Donc il y a de tout. Il y a des méchants. Donc je donne Lysenko, qui est un généticien soviétique qui, comme ses théories étaient loufoques, puisqu'il y avait un débat, le mieux c'est de tuer ses opposants. Donc lui s'est débrouillé pour que tous ses opposants soient tués. Il les a envoyés au goulag. Donc c'est un vrai méchant. En plus, c'était un charlatan parce que les mesures qu'il prétendait faire, il ne faisait pas. Donc voilà un méchant. Il y a des escrocs. Hein, c'est... Donc, je vous donne Cyril Burt, qui était un généticien britannique qui avait analysé le comportement de jumeaux. On s'est rendu compte après qu'il est mort, que en fait ces jumeaux n'avaient jamais existé. Donc il avait basé ses théories sur des jumeaux inventés. Donc il y a des escrocs. Et puis il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc voilà, je voulais signaler qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est la seule anomalie. Un monde scientifique, c'est un monde d'êtres humains. La seule chose qui est bizarre encore à l'heure actuelle, c'est que c'est très peu peuplé de femmes, et je ne sais pas pourquoi. Et c'est certainement un des gros défauts, mais sinon vous avez tous des escrocs, des félons, des génies, des gentils, des méchants, etc. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai donné un petit aperçu de la recherche scientifique. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Je ne viens pas vous faire une publicité pour les carrières scientifiques. Mais ce qui est important que vous réalisiez, c'est qu'il y a d'une part encore une phase d'exploration qui est essentielle. Le monde qui nous entoure, on ne le connaît pas parfaitement. Parfaitement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous ai donné l'exemple des côtes de Guadeloupe. Vous pourrez dire, les côtes, je les connais. Non, on les connaît grosso modo. On sait qu'il y a du fond, que ça s'enfonce plus on s'éloigne de l'île. Mais si vous voulez regarder quelque chose de plus précis, qui est savoir est-ce qu'il y a des glissements de terrain, il faut avoir une carte qui est beaucoup plus précise, et cette carte-là n'est pas disponible. Donc, dans certains cas, l'information qui est disponible, dont vous pourriez avoir besoin pour tester une théorie, elle n'est pas faite, et donc il faut aller la faire. Deuxièmement, le monde qui nous entoure, on ne le connaît pas encore parfaitement, tout simplement parce que l'exploration n'est pas finie. Je vous ai donné l'exemple des roches les plus anciennes du globe, on vient de les découvrir, et ça fait pourtant des années et des années que des gens ramassent des roches dans tous les coins du monde et les datent, et bien voilà, on a trouvé celles qui étaient les plus vieilles, et il y en a certainement d'autres à côté. Donc l'exploration du monde n'est pas finie, et la science est aussi ça. Hein, c'est l'exploration pour découvrir des choses qui n'ont pas encore été découvertes. Voilà.